Je propose que nous portions un toast à la famille.
À la famille.
4e, dernier épisode après la loi Taubira de 2013.
Mes chers collègues, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ceux qui sont favorables pour l'adopter, lèvent la main. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Abstention. Mes chers collègues, le Sénat a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Merci, monsieur le rapporteur de la commission des lois.
Merci, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues. Bien sûr, vous le comprendrez, c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que je savoure ce moment, 15 ans après l'adoption du PACS, de faire en sorte que je participe à une histoire qui n'est pas finie. Vous l'avez tous dit, non, l'histoire n'est pas finie. Elle se poursuivra par des améliorations constantes, parce que c'est ça notre société.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Au palais du Luxembourg, il y a 6 ans, à l'époque un président socialiste au plateau, Jean-Pierre Bel, et un rapporteur socialiste, Jean-Pierre Michel, qui avait déjà été rapporteur à l'Assemblée nationale de la loi sur le PACS. Jean-Pierre Michel dit « c'est pas fini ». Et en effet, tous les magistrats qui ont été chargés de l'application de la loi Taubira sont au moins d'accord sur un point. Elle est inachevée, certains pour dire qu'on est sur une pente glissante, d'autres pour dire qu'on est dans le sens de l'histoire. Laurence Brunet, bonjour.
Bonjour.
Alors je vous présente comme juriste à l'université, à l'hôpital aussi.
Oui, à l'hôpital Bicêtre, mais dans un tout autre secteur, dans un tout autre domaine, sur les enfants qui ont des variations du développement génital. C'est un autre thème.
Mes recherches concernent les transformations du droit de la famille et des personnes, je vous cite, entraînées à la fois par les mutations sociales et par le développement de techniques médicales qui modifient le rapport au corps. Et alors, vous avez une drôle d'image pour figurer votre travail, l'enclume et le marteau.
Oui, alors c'est une expression que j'ai utilisée pour la gestation pour autrui, mais elle s'applique très très bien aujourd'hui. Et on peut même rebondir sur ce que Jean-Pierre Michel disait, c'est une loi inachevée, et justement... Le problème, c'est toujours le marteau, enfin l'enclume plutôt des pratiques, des situations familiales, et le marteau de la loi qui vient taper, faire mal ou entériner, ça dépend.
Et fabriquer des objets dans la forgerie qui peuvent paraître étonnants, sidérants ou inachevés.
Oui, mais il les fabrique pas complètement quand même, le droit. Il vient toujours un peu après, on y reviendra. Mais le droit, il vient essayer d'organiser des choses qui naissent, qui se créent, dans les situations sociales. C'est parce que les gens, c'est parce que les couples de femmes, parce que les couples homosexuels à un moment donné se sont autorisés à avoir des enfants, surtout à partir de la loi 2013, que évidemment la loi doit changer. On ne peut pas se contenter du compromis actuel qui suppose de passer par l'adoption de l'enfant du conjoint. Donc une fois
l'adoption.
Voilà, l'adoption.
Alors c'est une des questions que vous posez souvent, Laurence Brunet. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé la forme devenue familière de l'adoption? Mais disait le doyen Carbonnier, c'est un pari. Tous les jours, on cite le doyen Jean Carbonnier. Familier de la transformation de la famille. Il disait, l'adoption, moi, j'y touche pas trop, parce que quand il y a du flou, il y a un loup. Longtemps, l'adoption a été utilisée pour dissimuler, peut-être. On parlera bientôt de la publication du journal intégral de l'écrivain Julien Green, à qui il confiait les bons et les rebonds de sa pratique homosexuelle. Julien Green avait adopté Éric Jourdan, un écrivain beaucoup plus jeune que lui, qui s'est trouvé être son légataire universel.
Voulez-vous que je continue cette interview Éric Jourdan en vous appelant Éric Jourdan, c'est-à-dire votre
oui,
nom
oui, 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 oui.
Ou faut-il dire Jean-Éric Green?
Non, Éric Jourdan et...
Jean-Éric Green, c'est pour bien montrer que vous avez été adopté par Julien Green, voilà, que vous considérez comme votre père.
Que je considérais comme mon père, qui était un homme extraordinaire, qui était américain d'abord, dont je ne partageais pas toutes les idées, mais que je respectais énormément. Bon, il était très religieux. Il n'avait aucune barrière de race, ni de questions sociales, etc. C'était un, j'allais dire, c'était un chrétien, comme on dit. Mais, ce qui n'est pas mon cas. Nous n'avons pas du tout eu les mêmes intérêts, et nous n'avons pas non plus, j'allais dire, presque la même culture.
Filiation et origine, vous aimez faire la différence, Laurence Brunet. Au fond, dans l'adoption telle qu'elle est conçue ici par Éric Jourdan Green, c'est plus libre que quand on est dans la dépendance des origines.
Bon, alors, il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. D'abord, si on veut faire le lien avec ce qu'on a, ce qui est le son, comme vous dites, qui apparaît au début de l'émission, c'est-à-dire la loi 2013 et l'ouverture de la famille aux couples de même sexe, il faut poser un cadre. C'est-à-dire qu'en 2013, lorsqu'on ouvre le mariage, on n'ouvre pas le mode de fabrication des enfants. C'est-à-dire qu'on ne permet pas à un couple de femmes de recourir à une procréation médicale assistée avec un don de gamètes en France. Donc, elles vont devoir aller à l'étranger.
On y reviendra tout
voilà.
à l'heure.
Et c'est au moment où l'enfant va naître que celle qui a accouché est bien sûr la mère, et l'autre va devoir adopter. Donc, c'est là qu'on fait le lien entre ce lien, entre cette adoption qui est une vieille institution.
Oui, on est dans l'archéologie.
On est dans l'archéologie, enfin de l'archéologie de 1804. Avant, l'adoption n'était pas partout établie en France, mais 1804, elle est introduite dans le Code civil, mais pas du tout à finalité filiative. Elle est uniquement à visée successorale, on peut adopter qu'un majeur. Donc, vraiment, l'adoption a énormément bougé, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet de donner... une famille à un enfant, mais c'est surtout une façon de faire famille. Bon, en tout cas, pour revenir sur nos sujets contemporains, l'adoption va servir, parce qu'on n'avait pas d'autre solution, à rattacher l'enfant qui est né de ce don de gamète à la seconde mère. Et c'est donc cette adoption, c'est une façon de détourner une institution qui sert non pas à se rattacher à un enfant qu'on a contribué à mettre au monde, mais en général à rattacher un enfant qui n'a pas de famille et à qui on va en donner une.
Mais donc, si je reste dans l'histoire très très ancienne, pour les homosexuels, avant le Pax, c'était une manière de dissimuler sous le tapis.
Absolument. Mais quand vous dites les homosexuels, c'est la personne homosexuelle pouvait adopter un enfant. Depuis 1966 en France, l'adoption est ouverte aux personnes seules. L'adoption d'un mineur, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'adoption est ouverte aux personnes seules depuis bien plus longtemps, mais que d'un majeur. Donc quand c'est une façon de faire famille, la loi du doyen Corbonnier, dont vous avez déjà beaucoup parlé dans les émissions précédentes, 66, on permet l'adoption par une personne seule. Et progressivement, les pratiques, en quelque sorte confirmées par la jurisprudence, vont autoriser une personne seule homosexuelle à pouvoir adopter un enfant. Mais ça, c'est une famille monoparentale. Nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est la famille biparentale.
Mais attendez, vous croyez qu'il n'y a pas d'ordre dans cette émission? Si on commence par le thème de l'adoption, c'est que le thème de l'adoption va permettre d'aborder celui de la recherche des origines dont l'ombre plane sur le débat actuel. Soit deux auto-documentaires, pourrait-on dire, de Sophie Brédier, excellente réalisatrice. Documentaire qui parle de son adoption. Elle a été adoptée dans un orphelinat de Corée, et cette question vient au jour chez elle, très particulièrement quand elle est enceinte.
Je viens d'un pays où je n'existe plus, mais j'existe ici. Lorsque j'ai su que je t'attendais, j'ai ressenti de la fierté. Jamais auparavant, je n'avais connu ce sentiment, ce désir si plein de me poser là. J'étais prête à quitter mon corps d'orpheline, et c'est avec toi que je fonde mes origines. Tu es le premier jour du reste de ma vie. Je suis née quelque part en Corée du Sud, mais je ne connais pas les circonstances de ma naissance. Là-bas, je n'existe plus. Quand je suis retournée dans mon pays natal, j'ai appris que tous les documents avaient été brûlés. J'étais vraiment orpheline, sans espoir de retrouvailles, même si mes parents sont peut-être vivants. Je ne saurai jamais à qui je ressemble, et je ne sais pas toujours qui je suis.
Mais ce désir de recherche des origines devient si fort pour elle qu'elle s'en va en Corée. Mais dans l'orphelinat, où elle a été adoptée, elle constate que l'administration conserve traîtreusement ses origines.
C'est marqué que je suis, qu'on m'a trouvée et que j'ai été abandonnée.
Mais je ne vois pas. Donc c'est le responsable de cette mairie qui a déclaré. Ils l'ont trouvée en 1975.
En 1975, on dit que je suis une enfant trouvée.
Et c'est rattrapé après. Donc pour faire l'état civil, je crois que c'est rattrapé. On va aller poser la question.
Pour faire l'état civil, on dit que je suis une enfant trouvée. Donc ça veut dire que j'ai aucune trace officielle du fait que j'avais un père.
Dans le ministre étranger, il garde ton dossier d'adoption. Mais pas assez précise.
Mais dis-lui quand même que c'est d'une violence énorme, un papier comme ça. Parce que ça veut dire que pour accélérer les choses, ils ont mis que j'étais une enfant trouvée, que j'étais rien du tout.
Le problème d'original, c'est tes parents qui n'a jamais marqué leur nom, qui n'a jamais laissé.
Je pense pas que le problème vienne de mon père. Tu lui dis que j'ai du courrier signé de l'ambassade comme quoi, à l'orphelinat, on savait que j'avais un père. Comment c'est possible que je sois une enfant trouvée alors que de l'autre côté, on sait que j'ai un père, que moi je m'en souviens. Donc je suis effacée d'ici et on a même effacé mon histoire. On l'a arrangée pour que ça aille plus vite. Dis-lui, aujourd'hui, je n'ai plus rien. Et la seule chose officielle, c'est un mensonge. Mais moi, j'ai aucune preuve pour dire que j'ai raison.
Désir de recherche qui devient colère ou désarroi, Laurence Brunet.
Bah oui, c'est toute la problématique des enfants adoptés en France, des enfants adoptés à l'international. Donc c'est vrai que cette question, le législateur s'en est saisi, a essayé pour les enfants nés en France, de trouver une solution, puisque la question des origines, le mot origine, il n'existe pas dans le droit avant 2002. Donc il apparaît lorsque le législateur justement adopte une loi pour essayer de mettre de l'ordre pour les enfants nés en France, dont les mères ont accouché sous X, donc dans le secret, pour pouvoir leur permettre éventuellement ce contact des années plus tard et éventuellement des retrouvailles. Donc c'est vrai que pendant longtemps, l'État français, comme les États qui étaient en sorte des viviers, comme on le dit parfois, de l'adoption, ont effacé, et non seulement ils ont effacé, mais ils ont menti. C'est-à-dire qu'ils ont dit que l'enfant était trouvé là où effectivement les parents l'avaient laissé pour X ou Y raison, l'enfant dans des orphelinats ou à l'aide sociale à l'enfance. Donc cette question des origines, elle commence vraiment à monter en puissance de la part des enfants sous X et des mères de l'ombre, les mères de naissance, celles qu'on connaissait pas et qui regrettaient d'avoir accouché sous X parce qu'elles avaient été contraintes d'une manière ou d'une autre à le faire. Donc ça finalement, dans les années 90, il y a des tas d'associations qui se créent pour demander à ce qu'il y ait une possibilité d'accéder à ces origines. Donc en 2002, la loi est votée, le mot entre dans l'ordre juridique. Donc c'est la première fois que, à côté du mot filiation, on dit, mais oui, les individus, ils ont besoin d'avoir des parents légaux, mais ils ont peut-être aussi, et ils ont, pour ceux qui ont été adoptés, aussi des gens qui les ont mis au monde. On va parler de mère de naissance, d'origine et de père de naissance. Et donc la loi permet à ce moment-là, pour une personne qui aurait été abandonnée, trouvée en France, de pouvoir s'adresser à une commission spéciale, le CNAOP, pour essayer de retrouver de manière officielle des traces qui auraient été laissées.
Juste une question qui veut introduire de l'émotion là où vous ne mettez que de la rigueur, Laurence Brunet. Les gens qui recherchent leurs origines, ils seraient en général assez contents de savoir qu'elle est née d'une relation d'amour ou d'une relation où il y avait de l'amour.
Mais il n'y a pas forcément eu une relation, enfin, où il y avait de l'amour, c'est difficile de savoir. Oui, bien sûr, mais peut-être que les individus s'imaginent que la mère a abandonné pour des raisons de détresse, mais il peut y avoir d'autres causes aussi. Donc c'est Voilà, les retrouvailles sont pas toujours faciles et les enfants s'imaginent parfois avoir des parents de naissance qui ne sont pas exactement ceux qu'ils ont imaginés ou rêvé. Donc c'est justement pour ça, même si j'en parle de manière froide et sans émotion, qu'on n'a pas laissé les individus chercher eux-mêmes. L'idée d'une commission, c'est pas encore faire un mode d'organisation, c'est aussi permettre à ces enfants d'être accompagnés par des gens qui vont les aider à reprendre contact. Et le CNAOP fait un travail vraiment de rencontre, parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, cette commission peut avoir retrouvé des informations sur cette mère de naissance, ça peut s'être passé 30 ou 40 ans avant, et il faut que prendre avec délicatesse contact avec cette mère pour lui demander si elle a bien accouché sous X, si elle est d'accord pour donner des informations.
Donc c'est on garde très présente compliqué. Cette question, elle est dans le contexte de la transformation de la loi. On parlait de l'adoption. Bon, l'adoption ne se sépare pas du modèle naturel, parce qu'elle est là pour conjurer les défaillances du modèle naturel. Mais le modèle naturel peut-il être dépassé? C'est la question que posait dans un discours qu'on n'a pas assez remarqué Jean-Luc Mélenchon il y a deux jours à l'Assemblée nationale, suggérant peut-être que le droit avait du mal à suivre les réalités. Une de vos formules familières consiste à dire, Laurence Brunet, qu'il est en retard comme les carabiniers d'Offenbach.
Les voilà! Les voilà! En avant! En avant! En avant!
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Voilà, nous sommes 6 ans après la loi Taubira. Notre invité Laurence Brunet, nous sommes 45 ans après la dissolution de l'ORTF, mais il paraît que l'ORTF est le modèle de l'avenir. Donc on entendait son orchestre lyrique dirigé ici par Jean Doussard. La loi qui est en discussion, c'est une loi de révision des lois bioéthiques, donc il y a d'autres sujets que la PMA, la recherche sur l'embryon, que sais-je. Mais sur la PMA, vous m'avez dit, Laurence Brunet, je me laisse porter par vos questions. Non, allez-y, faites un commentaire général des grandes interrogations qui naissent de la transformation des techniques de procréation.
C'est l'un des enjeux de cette révision, même s'il y a plein d'autres sujets, la recherche sur l'embryon, les tests génétiques. Celui qui mobilise et qui est peut-être le plus délicat, c'est de s'adapter, d'ouvrir la procréation médicale assistée à des nouvelles configurations familiales, les femmes seules et puis les couples de femmes. Et c'est là, pour reprendre l'idée du droit qui est en retard, c'est vrai que le droit n'a pas, enfin voilà, a attendu que le chaudron des pratiques déborde. Et puis là, il est vraiment passé au-delà de ce que le droit pouvait absorber, puisque le droit s'est servi de cette institution de l'adoption. On a bien compris en entendant tous les témoignages que l'adoption est plutôt faite pour intégrer dans une famille un enfant qui a été abandonné, qui a été trouvé, qui a été délaissé. Or là, on utilise l'adoption parce qu'on n'a rien d'autre comme solution pour rattacher l'enfant à ses deux mères qui l'ont voulu dès le départ. Cet enfant n'a jamais été abandonné. Il a été désiré. Il y a eu un projet parental dès le départ, porté par deux femmes, et toute la question, l'enjeu de ces révisions, c'est de rattacher cet enfant à ses deux mères. Donc c'est de permettre que la procréation ait lieu en France, que ce don de gamètes élu en France et plus à l'étranger, comme les femmes l'ont fait entre 2013 et aujourd'hui. Et le second enjeu, c'est de du point de vue de la filiation, c'est de permettre que, dès la naissance de l'enfant, cet enfant ait deux mères.
Alors, premier point, l'exportation des gamètes à l'étranger. Une affaire, il y a quelques années, Mariana Gomez-Turie, son époux, avait congelé son sperme après qu'il était atteint d'un cancer. Il meurt, les gamètes sont conservés à Paris. La jeune femme dispose d'un texte de son mari disparu qui souhaite une implantation, une PMA. Mais comment autoriser l'exportation des gamètes? Le Conseil d'État, d'ailleurs, avait donné un avis qui avait surpris plus d'un à ce moment-là.
Cette affaire était une histoire très particulière. Et quand le juge intervient, heureusement, il fait toujours très attention à l'affaire qu'il a sous les yeux. Et si le Conseil d'État a dit que oui, on pouvait exporter les gamètes, c'est parce que cette dame et son défunt mari étaient en France un peu par accident. Et il avait été soigné à Paris de son cancer dont il était décédé, mais c'était pas leur lieu de résidence. Et quand l'un était italien, l'autre espagnol. Et après le décès, cette femme demande à rentrer en Espagne. Les gamètes, avant le traitement de chimiothérapie, les gamètes ont été conservées en France. Or, elle est espagnole et la loi espagnole permet qu'on puisse faire une insémination post-mortem. Donc, elle rentre chez ses parents. On peut comprendre quand les circonstances, elle n'a pas envie de rester en France. Et donc, elle demande, et il faut une autorisation en France, une exportation des gamètes pour pouvoir réaliser ce qui est légal chez elle. Et le Conseil d'État dit, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, je l'autorise. Mais de manière générale, justement, ce que le législateur s'apprête à faire, c'est d'éviter qu'il y ait justement des femmes qui aient besoin d'aller à l'étranger, en particulier les couples de femmes. On ne parle pas de la procréation post-mortem puisqu'elle va rester interdite. Donc,
d'après l'avis de la commission spéciale la séance plénière.
Pour l'instant, c'est pas ouvert. Mais l'idée est quand même d'éviter que les femmes aillent à l'étranger, les couples de femmes. Pas quand il y a un drame comme la mort, mais éviter que les femmes aient allé à l'étranger pour recourir à ce don de gamètes. Qu'on le fasse chez nous et qu'on leur ouvre quelque chose qui est ouvert pour tout le monde.
Il n'y a pas beaucoup de cas quand même. On légifère sur des cas, vous avez vous-même dit, il y a un instant, peu nombreux, ce qui laisse la population majoritaire souvent interdite.
Oui, il y a eu des cas. La loi, quelquefois, intervient sur des cas particuliers. C'est arrivé. C'est pas courant. Mais là, effectivement, et puis surtout, les cas ont été rares, mais ils ont été judiciarisés. Donc, ils ont remonté jusqu'à la Conseil d'État, voire la Cour de cassation.
Formidable nouveauté, c'est le deuxième point que vous abordiez. Je cite dans Ouest France, vous habitez la Bretagne, vous devez lire Ouest France, Irène Théry, que vous connaissez très bien, Laurence Brunet. Ce qui est très nouveau, c'est la possibilité peut-être de lever du secret dans le cadre de l'intervention d'un tiers donneur. Il y a un député qui défraie la chronique pour différentes raisons et qui a dit « Mais moi, je suis un donneur de sperme, alors je vais sans doute voter la levée du secret sur le don de sperme. Est-ce qu'il peut lui arriver quelque chose comme dans le film Fonzi ?» Parce que dans le don de sperme, il y a un premier acte. Et puis, nous explique ce film, 18 ans plus tard, quand les jeunes gens deviennent majeurs, par exemple, il y a un deuxième acte et l'avocat des gens qui sont nés d'un don de sperme peut frapper à la porte.
De 1988 à 1990, vous avez participé à un protocole pour la recherche dans le centre de fertilité de la clinique Vallée que je représente. Vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzi, sur une période de 14 mois, et pour la somme de 47 255 francs, soit environ 7 500 euros actuels.
Non.
Si.
Non, non.
Si, si. Récemment, une enquête administrative a révélé que la clinique Vallée ayant eu à l'époque une pénurie de donneurs, du Fonzi a été fourni, et à beaucoup de patientes, de sorte que vous êtes le père de plusieurs enfants entre 17 et 22 ans. Vous avez un sperme d'une très grande qualité, Monsieur Costa.
Merci.
Suite à cette enquête, la clinique a eu l'obligation de prévenir les enfants contre les risques de consanguinité.
Il convient, moi.
Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. Ils se sont regroupés dans un collectif qui a assigné la clinique Vallée pour la contraindre à divulguer votre nom. Alors, le collectif part perdu d'avance en droit français, mais la Convention internationale sur le droit des enfants stipule que ces enfants disposent d'un droit à connaître leur origine. Bien sûr, vous avez signé une clause de confidentialité avec la clinique. Vous êtes donc contractuellement protégé par mon client, qui va défendre votre droit à l'anonymat. Mais le caractère particulier de cette affaire...
Yo no soy Diego Costa.
Ouais. Cependant, préparez-vous quand même à vous défendre.
Oh là là, Franck, je ne connais pas, moi je suis Costa. Hein. Bon. Laurence Brunet.
Bon, alors d'abord, c'est une fiction, hein, je le rappelle, et c'est une chose qui ne peut pas avoir existé en France, puisque depuis que le don de gamètes est encadré, alors peut-être qu'il y a eu des pratiques de ce type avant 94, mais depuis 94, on a mis un cadre en France, c'est gratuit, et on ne peut pas faire plus de 10 enfants avec un donneur de gamètes. Voilà, donc ça reste de la fiction, peut-être que ça s'est passé avant, mais en tout cas, ça n'est plus possible aujourd'hui. Et puis,
non, mais son sperme était d'excellente qualité.
Oui, oui, ah bah...
l'avocat, puis sans doute est-il intervenu plusieurs fois.
Sans doute, mais en France, on ne peut pas faire plus de 10 d'accord, enfants avec d'accord. le même donneur, même si c'est un excellent étalon, ce qui a l'air d'être le cas de Fonzie. Bon, après, c'est pas le père, hein. Il faut qu'on soit clair, depuis 94, et ça a été clairement dit dans la loi, le géniteur, même si on le retrouve... À l'époque, l'anonymat était complètement absolu, même si on le retrouvait par hasard, eh bien, il ne pouvait jamais être le père légal. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir d'action pour dire ce géniteur sera mon père légal. Le père légal, c'était celui qui s'était engagé avec la femme à recourir à un don de gamètes, hein, quand le couple était infertile. Depuis 94, c'est organisé, mais c'était le cas déjà avant. Les pratiques sont mises en place dans les années 70, au moment où les centres d'études et de conservation de sperme sont créés. Donc, un couple stérile recourait à un don de gamètes. Les parents, c'était la mère qui accouchait et puis l'homme qui avait donné son consentement à ce don de gamètes. Jamais le géniteur n'était un père. Et les médias ont tendance à souvent dire que le géniteur, c'est le père biologique. Père biologique, c'est une notion qui veut rien dire. On est le géniteur ou on est le père légal. Voilà. Mais
c'est-à-dire que la paternité, c'est une construction juridique.
Voilà, absolument. On sait très bien que depuis toujours, la paternité n'a pas grand-chose à voir avec la vérité biologique. Hein. Souvent, les juristes ont acté de cet écart entre ce que le droit établit, ce que le droit protège, et puis la vérité qui a longtemps été de côté. Donc, la levée de l'anonymat, c'est justement l'enjeu actuel. C'est un des enjeux actuels de la révision de la loi de bioéthique, puisque le don de gamètes va rester anonyme pendant 18 ans. Et puis, ce qui est prévu, ce qui est en bonne voie, et on peut s'en féliciter de vote, c'est que à 18 ans, à partir de 2020 plus 18, l'enfant pourra avoir accès à ses origines et demander des informations identifiantes et non identifiantes sur la personne qui aura été à l'origine de sa naissance. Et bien sûr, aujourd'hui, il faut quand même préciser une chose importante, les donneurs ne pourront être donneurs que s'ils acceptent qu'à 18 ans plus X années, leur identité puisse être connue. Donc il ne s'agit pas de tromper une parole qui aurait été donnée.
Alors, pour ne pas finir cette série sur une conclusion univoque, j'ai bien compris donc... la parentalité, c'est pas très certain. La paternité, pardon, c'est pas très certain. Alors maintenant, voilà que la maternité ne va pas l'être à son tour. Mais ça, c'est un débat pour dans quelques années voilà. Encore. Merci à vous, Laurence Brunet.
Merci.
Franck Olivard, Aurore Juvenel, Audrey Ripouille, Frédéric Martin, Franck Olivard et à la technique, Clément Vuillet. C'était La Marche de l'Histoire. Et chez vous, Fabrice Drouel, fiction le vendredi.
Oui, mais fiction tirée d'un fait réel, évidemment. Et là
non, mais
c'est
elle a dit que c'était important, la fiction.
Oui, mais là c'est un récit classique d'affaires sensibles, y compris un vendredi. Ce sera à peu près un vendredi sur deux.
Donc il y a de l'espionnage, c'est ça?
Il y a de l'espionnage.
C'est un récit classique, il y a de l'espionnage.
Voilà, le deuxième épisode des aventures d'Oleg Gordievski, un espion russe qui a décidé de travailler pour l'Ouest. C'est ce qu'on appelle un agent double. Moscou s'en est aperçu, l'a rappelé. Et dans le deuxième épisode, ce monsieur retourne à Moscou, angoissé, vous l'imaginez.